Bonjour, je fais une émission sur l'agriculture biologique. Si je vous dis reconversion, vous me dites quoi ?
Je dis bonne idée.
Vous savez en quoi ça consiste, la reconversion ?
On va traiter peut-être les vaches avec des huiles essentielles. On va essayer d'avoir une approche plus naturelle, quoi.
On vit dans un monde où, en fait, on met des étiquettes bio pour dire que c'est bio, alors que ça devrait être le contraire.
Oui, ça devrait être conventionnel. L'agriculture biologique devrait être la conventionnelle.
Le verre dans l'assiette.
Un podcast d'enquête immersive auprès des acteurs du bio, par Rachel Richterich. Septième épisode, le grand saut de la reconversion.
Des fermes bio, il en pousse un peu comme des champignons en Suisse. Depuis 10 ans, plus d'une centaine de paysannes et de paysans sautent le pas chaque année. L'an passé, 125 fermes supplémentaires ont été certifiées. Ça porte le nombre total d'exploitations bio à 7901 contre 6120 en 2012. Vu de l'extérieur, passer d'une agriculture conventionnelle au bio, ça n'a pas l'air bien sorcier. On arrête de mettre des pesticides dans son champ. Point. Et évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Ce pas vers le bio, ça peut vraiment s'apparenter à un grand saut dans le vide. D'ailleurs, on appelle cette transition une reconversion. Et c'est pas pour rien. Parce que pour un agriculteur, passer du conventionnel au bio, c'est presque comme d'embrasser un nouveau métier.
Oui, Pascal Olivier.
Je joins au bout du fil Pascal Olivier, responsable roman de Bio Suisse, pour qu'il me donne les quelques infos de base sur ce passage du conventionnel vers le bio.
Il y a vraiment une période dite de transition ou de reconversion qui dure 2 ans pour le bio bourgeon, pour Bio Suisse, puis 3 ans par exemple pour les collègues en Déméter. Donc ça, c'est une obligation. Pendant lesquelles, des fois, c'est 2 ans ou 3 ans qui peuvent être assez pas évidentes à gérer, parce qu'il faut vraiment, on remet en cause son modèle qu'on connaissait souvent depuis des dizaines d'années.
Pour me faire une idée plus concrète de ce que représente cette période de transition pour un agriculteur, je suis partie à Pomy, près d'Yverdon, rencontrer Fabien Pellou.
Bonjour, est-ce que c'est avec vous que j'ai rendez-vous ? C'est Rachel, bonjour.
Enchanté, Fabien.
Enchanté. Cool, on est à Yverdon et puis on va aller à Pomy,
ouais,
c'est ça ?
Ouais, exactement, on va se redéplacer directement jusqu'au bureau, à ma ferme.
Ouais, génial.
Ça sera plus simple.
Oh ben, carrément une Tesla.
Ah ben, agriculture moderne.
Ouais, ça fait pas trop paysan Birkenstock.
Ah ma foi, on aime bien casser les codes.
Ouh là là.
Il m'accueille sur son domaine de 60 hectares, dédié pour moitié aux grandes cultures céréalières et l'autre moitié à l'élevage de vaches destinées à la production de lait pour du gruyère AOP.
Que là, bah, on a 2 grands parcs, ça sera vraiment les vaches. Ouais. Après, au fond, on peut voir des lignes comme des passages, c'est du blé. Et puis après les vaches, on a aussi du blé derrière la ferme. Et on a aussi une autre partie du domaine un petit peu plus haut. On a aussi ici une partie, mais vraiment un peu plus grande culture. Et puis on a aussi encore un domaine qu'on avait racheté à ma grande tante. Et là, on a aussi 15 hectares où on fera vraiment de la grande culture. Bah, typiquement cette année, il y aura du maïs, du tournesol, du blé et du soja.
4e génération d'une famille d'agriculteurs qui a ses armoiries sur le clocher du village, ce trentenaire a connu toutes les manières de produire. De l'hyper-intensif pratiqué dans les années 70 par son père, avec tout un tas de pesticides, au très raisonné IP suisse, reconnaissable au label Coccinelle et qui n'autorise qu'un strict minimum de chimie. Aujourd'hui, Fabien Pellot vient tout juste de terminer sa reconversion. Je commence par lui demander ce qui l'a poussé à passer en bio.
Moi, j'avais aussi cette idée de passer en bio, parce qu'au bout d'un moment, c'est triste à dire, mais j'avais fait le tour de ces produits de traitement. C'est bon, quoi, tous les jours, ben voilà, on sème des tournesols, et ben, en prélevé, on sait qu'on doit mettre nos 4 litres de bondure dans 200 litres d'eau, puis aller traiter, aller go. Ben, ça, c'était bon, quoi, j'avais compris. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre aussi.
Je comprends que quand on passe au bio, tout change. On passe d'un calendrier de traitement à des techniques et des connaissances agricoles différentes qu'il faut maîtriser. Que ce soit dans la manière d'organiser ses cultures ou dans la façon de répartir son temps de travail ou encore développer des connaissances sur les plantes. Le bio, ça représente aussi d'importants investissements dans l'outil de travail.
Parce qu'en passant au bio, ben forcément, c'était fini la pompe à traiter et puis l'herbicide pour traiter les mauvaises herbes dans les blés, dans les tournesols ou dans les colzas. C'était vraiment, ben maintenant, on a une machine avec des doigts qui gratte la terre en évitant la culture, qui gratte entre les lignes de culture. Et puis ça a un prix. Et puis justement, il fallait les acheter parce qu'on ne pouvait pas dire ben, on achètera ça quand on touchera la prime bio. Parce que 2 ans et demi après, les champs, ils auraient été catastrophiques. On n'aurait pas fait la différence entre un colza et puis des mauvaises herbes.
En fait, on se lance pas dans le bio sans y avoir un peu réfléchi. Chez la famille Pelot, ça faisait une dizaine d'années qu'on y songeait. Pascal Olivier me confirme qu'il est absolument nécessaire d'anticiper.
Et puis ça implique vraiment un changement total finalement. Donc le cahier des charges bio Bourgeon doit être respecté dès le 1er janvier, donc de l'année de reconversion. Et ça signifie souvent... En fait, l'automne d'avant, parce que déjà, il faut anticiper l'automne d'avant pour semer des graines bio. Si on veut récolter pendant l'été, par exemple 2023, on veut récolter du blé, bah, il a fallu le semer peut-être en septembre, octobre l'année passée. Donc déjà, semer des graines bio l'année d'avant, voire même aussi les gens qui ont des animaux. Ça implique souvent des transformations au niveau de la grandeur de l'étable, des surfaces à disposition du bétail pour le pâturage ou pour la sortie, par exemple pour le poulailler. Les poulaillers aussi, il faut souvent adapter les structures, en fait, les étables. Plusieurs mois, voire plusieurs années avant, c'est des travaux qui peuvent prendre du temps. Donc il y a vraiment une implication totale pour passer en bio.
Dans le mille, c'est la construction de la nouvelle étable qui a coûté le plus cher à Fabien Pelot. Il fallait répondre aux normes de Bio Suisse qui exigent notamment de donner plus de place aux vaches et des espaces pour qu'elles puissent sortir en plein air. Et attention, il n'a pas construit n'importe quelle étable. Il s'est doté d'une structure tout automatisé et robotisé avec panneaux solaires sur le toit pour garantir son autonomie énergétique. Et surtout, c'est une étable placée sur un site romain. Surprise ! Les travaux commencent en 2019 et prennent du coup plus de temps et plus d'argent.
En gros, une année et demie clairement de construction et 4 mois de retard et à peu près 150 000 francs de frais d'archéologie sur le site qu'on est là, que le canton nous a demandé de payer nous, hein, parce que dans le canton de Vaud, c'est à nous de payer, donc au maître d'œuvre, de payer les frais archéologues. Donc pendant 3 mois, ils nous ont stoppé ici pour gratter les couches de terre une à une et puis d'utiliser différents outils comme des pinceaux et autres petits crayons pour essayer de trouver des traces des Romains.
Quand on a l'habitude de soulever des mètres cubes de terre, d'y aller à pleine main, il y a de quoi devenir fou à voir gratouiller des archéologues. Bon, ils ont trouvé quelque chose au moins ?
Ils ont trouvé un très gros four qui devait dater de l'âge du bronze. Ils nous ont un peu expliqué avec les traces qu'ils voyaient, hein, c'est leur métier. Moi, j'étais un peu là, ouais, bon, ben voilà, moi, je vois de la poussière et puis différentes couleurs de poussière. Moi, je me rends pas trop compte. Et puis, du coup, non, mais oui, c'est vrai, là, on voit, ils ont fait ça. Là, on voit que c'est un mortier. Ici, on voit bien qu'il y a des résidus de bronze. Hein. Et puis, j'étais là, OK, bon, ben, c'est super. Et puis, ben ça, ils le dataient de 4000, 3000, 3000 ans avant Jésus-Christ.
Et voilà pourquoi son domaine s'appelle la Romaine. Un petit clin d'œil parce qu'il vaut mieux en rire. À côté de ça, il a fallu changer plein de détails qui n'en sont pas. Par exemple, virer le foin des vaches fauchées avant la reconversion. Et ça, même si pour faire pousser de l'herbe, on met pas d'herbicide. Donc a priori, c'est bio. Il a fallu investir aussi dans les quelques produits de traitement bio qui, eux, coûtent 30% plus cher. Sauf que pendant la reconversion, on peut pas vendre avec la plus-value prévue pour le bio. En d'autres termes, on assume des coûts de production plus élevés sans pouvoir les répercuter dans l'immédiat sur le prix final.
Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on est passé en bio, donc 2 ans de reconversion plus ces 5 mois de vrai bio, et on n'a toujours pas, par exemple, touché encore un seul centime bio, alors qu'on a déjà produit plus de 100 000 litres.
Depuis le début de la reconversion, il me dit avoir produit 500 000 litres de lait selon le cahier des charges bio, mais qu'il a dû vendre au prix du conventionnel. Et il doit encore attendre mi-juin pour toucher la prime du mois de janvier, pour autant que le fromager ait pu vendre son produit en qualité bio et qu'il n'ait pas été déclassé.
Ben, on avait fait un peu un calcul avec mon père, si on n'a pas 250 000 d'avance, la reconversion aurait été impossible. Mais 250 000, on parle d'un quart de million, hein. On parle pas de 250 balles. Donc en plus, le bâtiment ici, il a coûté 2,2 millions. Il fallait encore avoir 250 000 de réserve. Ben, sans la fortune privée, on n'aurait jamais réussi. Donc maintenant, ben, on se réjouit de voir un peu ces primes bio arriver. Et puis ben, dans 5-10 ans, on aura amorti, on aura récupéré ce qu'on a mis nous-mêmes de notre poche. Mais c'est vrai que, comme je dis, c'est vraiment purgatoire. Parce qu'au final, le but, c'est que le côté commercial du bâtiment remplisse le compte privé, pas l'inverse.
Purgatoire, le mot est fort. Fabien Pelot s'est senti peu soutenu, y compris par BioSuisse qui, à part quelques groupes d'échanges entre paysans, ne prévoit pas vraiment de mesures pour accompagner la transition et tend vers davantage de rigidité dans son cahier des charges. C'est un gage de qualité, au fond, pour le consommateur. Pascal Olivier confirme cet état de fait.
Mais oui, alors on va vers plus de sévérité, encore plus stricte, etc. Plus de précision aussi, c'est des fois ce qui qui énerve un peu nos membres, qui sont bien dans l'esprit bio, mais qui des fois auraient envie d'un petit peu plus de souplesse. Et puis on est obligé. Alors quand on était 175, on se connaissait presque tous, il n'y avait pas de souci. Et puis c'était vraiment des marchés de niche. Et actuellement, qu'on est à plus que 11% du chiffre d'affaires des denrées alimentaires qui sont vendues en bio, c'est presque 4 milliards de chiffre d'affaires avec les grands supermarchés qui sont dedans. Enfin, je veux dire, on peut plus permettre effectivement avec cette grandeur d'avoir trop de souplesse ou de déviation, si on veut, par rapport à notre ligne, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, c'est plutôt vers plus de rigidité, si on veut, dans ces cahiers des charges.
Pourtant, si c'était à refaire, Fabien Pello le referait. Pour le défi entrepreneurial que ça représente, pour les perspectives d'avenir qui s'ouvrent à lui, et par conviction, parce que la différence, elle se voit dans la qualité des sols.
Même si je ne suis pas non plus trop un ayatollah en sandales qui jure que sur le bio et qui mange que ça et qui roule en vélo partout, je stigmatise un peu. Hein. Mais en gros, je remarque quand même que mes sols ont plus de résilience que quand j'étais conventionnel. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Je n'ai pas envie de dire qu'on m'a lobotomisé. C'est vraiment moi qui suis allé dans les champs, qui ai pris une bêche, qui ai gratté, et je trouve qu'on a moins cette terre bleue asphyxiée qu'on avait à l'époque quand on mettait par exemple du fumier, puis qu'on se disait « mais non, du bleu, pourquoi ce fumier, il donne pas aux plantes ce qu'on espérait ?» Puis qu'on coupait un bout de sol de 40 cm de profond avec une bêche, puis qu'on voyait qu'en fait, on avait nos tranches de terre, le fumier qui avait bleuté, donc qui était complètement anaérobe, et puis ensuite notre reste de terre. Donc en fait, notre semelle de fumier et d'engrais organiques n'avait pas bougé.
Il y a quelque chose d'anxiogène dans cette image de terre bleutée, asphyxiée, quelque chose de suffocant. J'imagine la surface sur laquelle ça s'étend. Et en fait, c'est ça la fameuse perte de biodiversité dont on entend parler. Et puis, je lève les yeux. Et mon regard s'égare dans le champ bourdonnant et foisonnant qui s'étend devant moi, plein de vie. Je me dis que ça vaut la peine, ces reconversions.